après l'actualité de ces dernières heures que vous venez d'écouter, c'est un numéro spécial, un hors-série en quelque sorte, que nous vous présentons cette semaine.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Vous le savez, cette émission traite l'actualité et invite très souvent des reporters. Eh bien, nous avons voulu, cette fois, entendre des journalistes, des confrères réfugiés à Paris à une époque difficile pour la liberté de la presse, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pour ce faire, nous sommes au cœur de la capitale française, dans le 15e arrondissement, à la maison des journalistes qui, depuis 2002, accueillent des professionnels des médias du monde entier, poursuivis, chassés de leurs différents pays. Voici donc une nouvelle édition d'une semaine d'actualité, une émission que vous pouvez retrouver sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr. Nous sommes donc à la maison des journalistes, entourés de confrères. Bonjour Darline Cottière.
Bonjour.
Vous en êtes la directrice depuis quelques années. Alors tout de suite, il faut expliquer où nous sommes.
Alors vous êtes ici, dans une ancienne usine de brosse à reluire.
Ah, c'est pour vrai des que c'est... journalistes, c'est curieux.
C'est curieux en effet, mais une ancienne usine qui accueille depuis 2002, comme vous venez de le dire, des professionnels de l'information, des journalistes, des blogueurs, des dessinateurs de presse, des photoreporters, des journalistes qui ont été persécutés dans leur pays parce qu'ils avaient osé parler de sujets qu'on peut qualifier de sensibles, des sujets qui ont dérangé le pouvoir en place, et c'est pour cette raison-là qu'ils ont été pourchassés, menacés. Donc il y en a qui ont vécu des traumatismes physique, psychologique assez important. Il y a certains journalistes qui ont fait de la prison, donc qui ont été torturés. Il y en a qui ont subi, dont la famille a subi des représailles. Et il y a des journalistes, comme vous le savez, il faut se référer aux rapports publiés par des organisations de défense des droits des journalistes. Donc la situation est un peu alarmante de ce point de vue-là. Donc beaucoup de journalistes sont tués dans l'exercice de leur métier. Mais nous voilà à la maison des journalistes, on accueille les exilés de la presse, donc ces hommes et ces femmes qui ont tenté de faire leur travail correctement, en toute conscience dans leur pays, leur travail à savoir informer.
Darline, nous allons en reparler dans un instant tout au long de l'émission, de votre mission, noble mission. Et nous sommes dans les sous-sols de cette ancienne usine de brosse à reluire, donc, qui est le cœur de cette maison des journalistes. Entouré de papiers, d'affiches, le journalisme n'est pas un crime, des cartes du monde, des livres, des DVD, c'est le cœur de la maison?
Oui, c'est en quelque sorte le cœur de la maison, parce que c'est un espace de rencontre, c'est un espace d'échange. C'est là, par exemple, où se donnent les cours de français pour les non-francophones, par exemple. C'est là où on organise nos réunions. On a même accueilli une conférence de presse ici. C'est la conférence de presse de l'exposition consacrée à Ghislaine Dupont et Claude Verlan, donc dessinée pour ne pas tirer un trait. Donc voilà, ça s'est passé ici. Mais c'est vrai qu'on a d'autres points névralgiques aussi dans la maison, parce que au-delà de l'accueil, de l'hébergement, on a tout un ensemble de programmes, tout un ensemble d'activités qu'on réalise avec nos journalistes et pour les journalistes.
Alors nous allons avoir l'occasion d'en reparler. Je voudrais donner la parole à deux journalistes d'ailleurs qui nous accompagnent. Makaïla Nguebla, bonjour.
Bonjour Pierre-Edouard.
Vous êtes journaliste et blogueur tchadien. Depuis quand êtes-vous ici à Paris?
Merci d'abord à Pierre et à toute ton équipe d'être venu ici à la Maison des Journalistes pour réaliser cette émission. C'est une considération importante pour nous, journalistes accueillis en France. Moi, je m'appelle Makaïla Nguebla. Je suis arrivé en France en 2013, après avoir été expulsé de deux pays, notamment la Tunisie et le Sénégal en 2013. Et c'est l'expulsion de 2013 qui a suscité effectivement l'indignation dans le milieu des ONG africaines et internationales et dans le milieu de politique français. Je pense aussi à Pascal Canfin, je pense à Noël Mamère, je pense aussi au président François Hollande. Donc, une mobilisation internationale qui m'a permis d'obtenir un visa de longue durée afin que je rejoigne la France, où je suis aujourd'hui titulaire d'un statut de réfugié politique.
Oui. Hicham Mansouri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous également, je vous en remercie. Vous êtes marocain et une enquête vous a valu quelques soucis avec les autorités marocaines et une expulsion.
C'est un premier souci. C'était un projet d'enquête plutôt sur la surveillance électronique qui m'a valu 10 mois de prison pour une affaire de mœurs montée en toute pièce par la police politique. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi le second procès pour atteinte à la sûreté interne de l'État, pour lequel je risque 5 ans. Et c'est le même juge qui a été affecté dans cette affaire et donc j'ai quitté.
Ouais. Avant de vous retrouver, je voudrais que nous revenions maintenant sur la commémoration des 50 ans de l'assassinat de Martin Luther King. Nous en avons bien sûr parlé cette semaine sur RFI. Assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee, sur l'avis de ce combattant des droits civils pour la fin de la ségrégation aux États-Unis. Écoutez ce que nous a dit mercredi Romain Lemaresquier.
Né en 1929 à Atlanta, en Géorgie, le jeune Martin a connu une enfance relativement tranquille. Fils de pasteur et d'une organiste d'église, c'est tout naturellement qu'il se dirige vers des études de théologie. En 1953, Martin Luther King est nommé pasteur d'une église baptiste de Montgomery, dans l'état de l'Alabama, un état du sud des États-Unis marqué par les violences à l'encontre des Afro-Américains. En 1955, c'est justement à Montgomery que Rosa Parks, une femme noire, est arrêtée pour avoir violé les lois ségrégationnistes en refusant de céder sa place dans un bus à un blanc, un événement qui marque le début du combat du pasteur King qui mène le boycott des bus de la ville, un mouvement qui va durer plus d'un an et qui voit Martin Luther King emprisonné pour la première fois. En 1963, il est à nouveau incarcéré. C'est à cette occasion qu'il rédigera la célèbre lettre de la prison de Birmingham dans laquelle il définit sa lutte contre la ségrégation. En 1964, il devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente contre les préjudices raciaux. Ce sera le combat de sa vie, mais pas le seul. Martin Luther King avait un rêve, celui d'une société dont les acteurs pourraient s'asseoir à la table de la fraternité, un rêve qui reste toujours d'actualité 50 ans après sa disparition.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Alors c'était un extrait bien sûr du célèbre discours de Martin Luther King le 28 août 1963 au Mémorial Lincoln à Washington à l'occasion des 50 ans de cet assassinat. Nous allons donc y revenir. Nous sommes de retour à la maison des journalistes. J'aimerais avoir un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, Darline Cotière.
Alors, cette commémoration a toute son importance, surtout dans le contexte actuel, dans le contexte mondial marqué par la fragilisation des démocraties, parce que c'est le cas de le dire. Ça me fait penser tout simplement que rien n'est acquis, même dans les sociétés dites démocratiques. Donc il faut rester vigilant par rapport aux droits en général. Donc c'est vrai que Martin Luther King avait longtemps lutté pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Mais voilà, quand on considère certaines situations dans nos sociétés, on se dit que voilà, ces valeurs sont fragiles et qu'il faut continuer de se battre pour qu'on les fasse respecter.
Magaïla Nguebla.
Je pense que c'est quelqu'un qui a lutté contre l'exclusion, pour l'égalité des races. À son temps, il n'y avait pas du tout effectivement cette égalité des races. Aujourd'hui, il symbolise effectivement la lutte des personnes opprimées dans le monde et notamment aux États-Unis. Et figurez-vous, 50 ans après, grâce à son combat, que Obama a réussi à être président aux États-Unis. Je pense que célébrer Martin Luther King est vraiment important pour nous qui sommes en exil, mais aussi pour le reste de l'humanité. Et je pense qu'il faut continuer à valoriser effectivement son combat, à faire en sorte qu'il ne soit pas tombé dans l'oubli.
Hicham Mansouri.
Moi, je retiens trois points. C'est que les grands combats, les grandes victoires, ça commence par un rêve. I have a dream. Qu'il y a toujours un prix à payer. Et lui, là, il a très bien payé. Et que c'est des processus qui sont très longs. Et comme a dit Darline, même aujourd'hui aux États-Unis, on revoit fréquemment des scènes qui nous rappellent ce qui s'est passé à l'époque. Donc il faut toujours continuer à militer.
Alors revenons à la situation des journalistes, Darline Cotière, et vous aussi, Makaïla Nguebla et Hicham Mansouri. Il faut rappeler que 65 journalistes ont été tués l'année dernière, en 2017, que la situation est jugée très dangereuse dans 71 pays, dont l'Europe de l'Est, selon Reporters sans sans frontières. On connaît la situation en Chine, en Russie, en Turquie, pour ne pas parler d'autres pays. Et on connaît même sous nos latitudes ce qu'on appelle le média bashing, hein, c'est-à-dire cette critique constante et de plus en plus importante des journalistes. Donc le contexte géopolitique du moment n'est pas très favorable.
Tout à fait, parce que on voit justement qu'il y a une grande agitation au niveau mondial qui font vaciller des fois les démocraties, et des journalistes nous permettent d'avoir la température du monde, en quelque sorte, de comprendre certains enjeux, des enjeux politiques, des enjeux sociaux, etc. Et quand ils mettent la plume dans la plaie, donc ça peut attirer les foudres de gouvernements autoritaires, liberticides. Donc c'est une situation plutôt alarmante, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'on voit que la liberté de la presse est en pleine régression. Si on se réfère justement à ces rapports, donc les rapports de Reporters sans frontières.
Et juste derrière vous, il y a une carte de Reporters sans frontières, d'ailleurs, qui s'intitule « La liberté de la presse dans le monde ». Et on voit que les taches rouges et les taches noires recoupent l'essentiel des continents du globe.
Même que, bon, en Europe, des fois, il y a des situations très sensibles. Oui. Quand en France, par exemple, on demande aux journalistes de révéler leurs sources, ça c'est une atteinte à la liberté de la presse. Mais c'est vrai que dans les zones de conflit, c'est très compliqué aussi pour les journalistes de faire leur travail. On a des journalistes, par exemple, qui ont été persécutés par Daesh en Syrie, parce qu'ils avaient publié des informations qui n'ont pas plu. Et dans le même temps, ces mêmes journalistes ont été persécutés par le régime en place, parce qu'ils avaient aussi publié des articles, des informations qui n'étaient pas dans l'intérêt de l'État syrien. Donc tout ça pour dire que les journalistes ont du mal à faire leur travail. Et ces rapports sont assez parlants sur la situation de la presse dans le monde.
Alors, nous sommes dans les sous-sols de la Maison des journalistes, dans le 15e arrondissement de Paris. Et au-dessus de nous, il y a des chambres. Ça veut dire que vous accueillez aussi des journalistes, au sens propre du terme.
Voilà, donc c'est avant tout une résidence. Donc, l'accueil passe avant tout par l'hébergement. Parce que les journalistes, ils n'ont pas choisi forcément de quitter leur pays. Non. Donc, souvent, ils ont fui en catastrophe. Des fois, ils choisissent même pas la France. Donc, ils se retrouvent du jour au lendemain dans un nouvel environnement, souvent déboussolés. Donc, il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'ils soient accueillis dignement. Donc, nous avons 14 chambres ici, à la Maison des journalistes. C'est vrai que cette maison a été créée sur le principe de la solidarité fraternelle. Ce sont des médias qui soutiennent l'action de la Maison des journalistes en parrainant une chambre, hein, par exemple. Donc on a la chambre France Média Monde à la Maison des journalistes.
J'espère qu'elle est belle.
Oui, elle est belle, on peut le dire. La chambre France Télévisions, le Canard Enchaîné, la Voix du Nord, etc. Je ne pourrais pas tous les citer, malheureusement. Mais pour nous, ce principe était fondamental parce que c'est une forme de reconnaissance justement pour les journalistes, le fait d'être accueillis en France, le pays des droits de l'homme, à Paris, à la Maison des journalistes, qui a une structure unique au monde et dans une chambre qui porte le nom d'un média parrain, donc il y a tout un symbole.
Alors, puisque nous sommes à la Maison des journalistes, il nous faut revenir sur la libération, ça c'est une bonne nouvelle, au Niger, cette semaine, du journaliste Baba Alpha, emprisonné depuis un an à Niamey, libéré mais expulsé vers le Mali. Michel Arsenault l'a joint au téléphone mardi.
Je suis très content d'être libre. C'est toujours un plaisir de sortir d'une prison, surtout que quand vous trouvez que cette prison, elle est injuste pour vous. Je pose cette question à l'ensemble du peuple nigérien. Quelqu'un qui est né au Niger, quelqu'un qui a été enseigné, soigné, éduqué au Niger, qui est marié à une Nigérienne, père de deux filles nées au Niger, qu'est-ce qu'il lui faudra de plus pour être Nigérien? Les papiers, je suis la procédure. Je suis les procédures normales pour avoir la nationalité nigérienne. On m'a fait savoir que cette procédure n'est pas légale. J'ai interjeté appel. La cour d'appel a dit que la décision en première instance est annulée pour violation de la loi. Aujourd'hui, je suis expulsé, tenez-vous bien, pour raison de sécurité intérieure de l'État. Je ne comprends pas comment Baba Alpha peut constituer une menace à la sécurité intérieure.
Un retour à la maison des journalistes pour cette édition spéciale d'une semaine d'actualité. Alors là, j'ai envie de vous interroger, Makaïla Nguembla, vous qui avez été expulsé du Tchad et qui avez du mal à travailler dans le continent africain. Voilà une bonne nouvelle.
Tout à fait, une très très bonne nouvelle.
Une demi-bonne nouvelle puisqu'il est expulsé.
Mais je déplore aussi que le Niger expulse le Baba Alpha du territoire nigérien, surtout qu'il est né au Niger, il a étudié au Niger, il a marié une femme nigérienne et c'est là où donc l'unité africaine, où est donc l'Union africaine, parce qu'en fait, dans l'espace CEDEAO, on est censé vivre et installer librement. Et aujourd'hui, avec l'expulsion, avec des graves accusations portées contre un journaliste pour atteinte à la sécurité de l'État, je déplore que la démocratie nigérienne recule dangereusement et ça appelle une fois de plus à une vigilance au niveau continental et une vigilance au niveau international pour la protection des journalistes qui sont désormais de plus en plus menacés sur le continent et de plus en plus menacés, comme l'a dit Darlene, dans le monde. Donc je pense que le métier du journaliste, qui est un métier noble et sacré, devait être quand même protégé. Et je salue effectivement, en 2015, Reporters sans frontières avait fait une proposition, une résolution au niveau des Nations Unies pour la protection des journalistes, qui soient sur les terrains de conflit, qui soient en rédaction, qui doivent être totalement protégés par les Nations Unies. Donc je pense que la protection des journalistes doit être au cœur des préoccupations des États qui se démocratique. Mais or, on a l'impression que nos États, et c'est déplorable pour un pays comme le Niger, qui a été une référence démocratique en Afrique de l'Est, aujourd'hui on constate qu'expulser quelqu'un qui a grandi, qui est né là-bas, vers son pays d'origine, et aujourd'hui Baba Alpha ne se reconnaît pas comme malien. C'est ça ce qui est déplorable. Nous, on a dénoncé à l'époque, déjà l'incarcération, l'arrestation depuis une année, c'est déplorable. Donc j'en appelle une fois de plus aux États africains et j'en appelle aux puissances internationales de faire respecter la liberté d'expression dans le monde.
Ah, Hicham Mansouri, combat quotidien aussi au Maroc, singulièrement.
Un combat quotidien qui devient de plus en plus difficile depuis 2013. On avait eu une parenthèse, soi-disant, qui a été ouverte en 2011 avec une réforme de la Constitution. Beaucoup de Marocains y croyaient, mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on s'attaque beaucoup aux journalistes avec des accusations qui n'ont rien à voir avec le travail de journalisme, comme apologie au terrorisme, comme détournement d'argent, etc. Aujourd'hui, carrément, tous les journaux indépendants, soit ils ont été inquiétés en emprisonnant leur directeur, soit via les boycotts publicitaires privés et publics. Donc c'est une asphyxie et on assiste à l'exil de beaucoup de journalistes.
Et pourquoi 2013 précisément ?
2013, il y avait un contexte régional, c'est le coup d'État en Égypte qui a donné espoir à beaucoup de régimes comme le marocain qui ont échappé au mouvement du 20 février au printemps arabe et donc de vouloir récupérer les espaces de liberté qu'ils avaient cédés.
Une semaine d'actualité.
Alors, parmi les images de la semaine, sans parler des événements dont on vous parle dans nos journaux ce matin, il y a la volte-face israélienne et la décision de ne pas expulser, finalement, dans le cadre d'un accord avec le HCR, le Haut Commissariat des Réfugiés, quelques 40 000 réfugiés, précisément africains, vers le Rwanda, notamment. À Jérusalem, mardi, Guilhem Deltaï a rencontré l'un d'entre eux.
Entre l'annonce d'un accord avec le HCR et celle de sa suspension, puis de son annulation, Testasgi Asgodom ne cache pas une certaine confusion. Mais pour cet Érythréen vivant en Israël depuis 6 ans, il y a tout de même une bonne nouvelle.
Pour le moment, les expulsions prévues ont été annulées. C'est un premier pas.
Comme la très grande majorité des personnes visées par le plan d'expulsion du gouvernement, Testasgi Asgodom refusait de partir au Rwanda qui lui était présenté comme son futur pays d'accueil. Il préférait aller en prison pour une période indéterminée, mais s'il refusait le départ dans le cadre du premier plan, il se dit prêt à l'étudier dans le cadre de l'accord passé avec le HCR.
Peu importe le pays ou le continent, nous voulons juste un pays qui soit sûr et qui applique la Convention sur les réfugiés. Donc c'est un bon accord.
Mais c'est sous la pression de la frange la plus à droite du gouvernement que cet accord a été annulé. Elle veut une expulsion de tous ceux qu'elle qualifie d'infiltrés.
Nous avons vu ces derniers mois beaucoup de pression en Israël et sur la scène internationale. Et je ne pense pas qu'ils puissent expulser de force les réfugiés vers un autre pays. Donc je ne pense pas que cela se produira.
Testasgi Asgodom aimerait que le gouvernement israélien reprenne les discussions avec le HCR.
Autre sujet peut traiter celui-ci par les médias, sauf sur RFI, et pourtant il s'agit d'une guerre, celle qui déchire le Yémen et qui jette sur les routes des milliers et des milliers de déplacés. Écoutez par exemple ce reportage de Muriel Paradon et Boris Vichit.
Ils vivent à même le sable, dans des cabanes construites en feuilles de palmier. Plusieurs familles se sont réfugiées ici, à la périphérie d'Aden. Ahmad Abdallah raconte avoir fui avec sa femme et ses 7 enfants les combats dans la ville de Moka, 200 kilomètres plus au nord. C'était il y a 2 ans déjà.
Les rebelles houthis nous tiraient dessus, il y avait des frappes aériennes, des mines aussi, ce n'était pas sécurisé, donc on est parti. On restera ici jusqu'à ce qu'on enlève les mines autour de chez nous. Récemment, quelqu'un qu'on connaît s'est fait tuer.
En attendant, la famille survit comme elle peut. Ahmad Abdallah fait des petits boulots, mais ça ne suffit pas à nourrir ses proches. Sa mère, Rabcha, silhouette amaigrie, enroulée dans un long châle noir, crie son désespoir.
Tout le monde en a marre. On était dans nos maisons, maintenant on est obligé de mendier à la mosquée. On dort dans des cabanes, sous des feuilles de palmier, au lieu d'être dans nos maisons. C'est ce qu'on voudrait, être à la maison. Cette guerre est une catastrophe pour tout le monde. Ce dont on a besoin, nous les déplacés, c'est de manger, c'est tout. On veut manger.
Au repas, il n'y a eu que du riz aujourd'hui, donné par une organisation humanitaire. Une aide rarissime selon la famille, qui se sent totalement abandonnée.
Retour à la maison des journalistes pour notre édition spéciale d'une semaine d'actualité. Nous accueillons un nouveau confrère à notre table, au cœur de cette maison des journalistes. Il s'agit de Mendiant Sidibé. Bonjour Mendiant.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et confrère présentateur à la radio guinéenne, c'est cela ?
Oui, Planète FM, bien sûr. Alors, c'est une radio privée, c'est une radio commerciale qui a été créée en 2011 et qui, par la force des choses aujourd'hui, connaît une certaine perturbation.
Et qu'est-ce qui vous a conduit ici ?
Ben, il faut reconnaître que j'ai eu maille à partie avec le régime guinéen de piloté par Monsieur Alpha Condé. Précisément, les choses ont commencé le 19 novembre 2013 lorsque, à la faveur d'une émission, nous avons eu à faire des révélations, à faire des dénonciations par rapport à sa gouvernance bancale. Et ça nous a coûté aujourd'hui l'exil puisque, en fait, à la fin de l'émission, nous avons été avertis par une riveraine de la présence d'hommes habillés en civil, mais qui pour elle étaient des agents de sécurité qui s'étaient déguisés en civil et qui étaient prêts donc à m'enlever. Mais bien auparavant, nous avons eu à alerter la population des menaces que nous subissions. Et moi précisément, j'ai été placé sous contrôle judiciaire pendant 3 mois. J'étais interdit de sortir de Conakry. Je me présentais tous les jours au juge d'instruction de Dikshin, pôle 2. Alors, donc finalement, nous avons été avertis, comme je le disais tantôt, par une riveraine de la présence d'agents déguisés dans le périmètre de la radio depuis la veille. Et je m'apprêtais à rentrer à la maison lorsque cette riveraine est arrivée à la radio. Alors, du coup, j'ai appelé la police qui m'a dit que non, c'était 48 heures après la proclamation officielle des résultats définitifs de législatives et que le quartier était...
Mais c'était en quelle année ?
C'était en 2013. Nous sommes en novembre 2013, oui. Bien sûr. Oui. J'ai appelé la gendarmerie, qui n'a pas osé aussi venir. J'ai appelé le président de l'Ultergui, Monsieur Boubacar Yassine Diallo, qui est un civil, évidemment, vous pouvez comprendre que lui ne peut pas faire le déplacement. Et là, la menace devenait de plus en plus grande. Et là, j'étais obligé de monter à l'antenne pour lancer un cri de détresse. Et c'est ce qui a fait que, en moins de 30 à 45 minutes, selon certains médias, il y a eu plus de 12 000 personnes dans la rue. Et de Damdalaï, sûrement vous connaissez Conakry, Damdalaï à Kabylie, en passant par Bambeto, Koza, tout était pris, la circulation a été perturbée et la population est sortie. Les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police qui se disait ne pas pouvoir venir sur le terrain, ont envahi tout de suite les lieux. Il y a eu plus de 8 camions dans le périmètre de la radio et les gens étaient prêts à me mettre aux arrêts. Mais vu la détermination de mes auditeurs, ils n'ont pas pu accéder à la radio et finalement, on a pu m'exfiltrer par une sortie dérobée.
Ouais. Et depuis, vous êtes à Paris. Darline, les cas de journalistes que vous accueillez sont toujours des cas très, très durs, très difficiles.
Ah oui, ce sont des cas très difficiles, donc c'est pour ça, justement.
Je dis des cas, parce que c'est souvent.
Oui, oui, donc ils ont eu des parcours, voilà.
Par l'administration, oui. des êtres humains en difficulté.
Oui, ouais. Voilà, ils ont eu des parcours très difficiles. Donc vous venez d'écouter le témoignage de Mendiant Sidibé. Donc on a, par exemple, des journalistes dont. Je pense à un journaliste centrafricain quelqu'un, par exemple, dont le frère a été assassiné à sa place. Je pense à une journaliste syrienne qui a échappé de justesse à la mort. Sa villa a été bombardée. Donc voilà, ce sont des drames humains, parce que justement, l'administration ne considère pas cette dimension humaine qu'il faut considérer dans le parcours de ces professionnels. C'est pour ça que moi, je dis à chaque fois qu'ils ont une double compétence. Ce sont de grands témoins, parce que non seulement ils ont la compétence professionnelle, et ils ont vécu aussi, ils ont eu l'expérience de la répression. Ils ont vécu ça pour la plupart dans leur chair. Et on le voit aussi, parce que nous, par exemple, on a un programme éducatif, parce que pour nous, l'action de témoigner, c'est une action très importante. Ça participe justement de la sensibilisation au respect des valeurs fondamentales.
Ça veut dire que ses confrères, réfugiés ici, vont dans les écoles expliquer.
Ils vont partout en France. Ouais. Donc, c'est un programme que nous menons avec le ministère de l'Éducation nationale, donc le CLEMI. Donc, ils vont témoigner dans des salles de classe, rencontrer des jeunes pour non seulement parler de la situation de leur pays, parler de la situation de la presse, mais aussi témoigner de leur parcours d'exil. Et c'est là où on voit toute l'importance justement de ce travail, parce que à l'ère de l'infobésité entre guillemets, donc les jeunes ont tellement accès à des informations,
surtout, je ne sais pas le terme.
Oui, donc des fois aussi des fake news, donc fausses nouvelles qui circulent sur la toile. Donc nos journalistes, justement, ils apportent cet élément humain. Ils peuvent témoigner de l'actualité, ils peuvent témoigner de la situation de la presse dans leur pays, mais aussi parler de leur propre histoire. Donc, leur histoire par rapport à leur métier. Et par ce biais-là, on arrive à les toucher. Et pour nous, ça, c'est fondamental. Donc, c'est une opération qui s'appelle Renvoyé spécial. Donc, justement, ce sont des gens qui ont été renvoyés de chez eux, donc qui arrivent en France et qui font ce travail de sensibilisation à la liberté de la presse, mais pas uniquement. Donc, nous, vraiment, c'est un travail qui porte sur le respect des droits fondamentaux.
Semaine d'actualité.
Alors, vous le savez, dans ce voyage, nous nous intéressons aussi à l'actualité française. Nous avons choisi dans cette édition spéciale un seul titre. Nous allons parler de la grève de la SNCF, longue grève perlée qui a commencé donc mardi et mercredi et qui recommence demain. Une épreuve de force avec le gouvernement et son projet de réforme qui prévoit la fin du statut des cheminots pour les nouveaux entrants et la mise en concurrence dès 2020. Gouvernement d'ailleurs critiqué à gauche comme à droite, Anthony Lattier.
Pour la gauche, la réforme rate sa cible. Ça n'est pas en changeant le statut des cheminots et de la SNCF que les trains vont arriver à l'heure. Une erreur que le gouvernement pourrait payer cher, assure la députée communiste Elsa Faucillon.
Le gouvernement a accompagné ce qu'on a appelé le cheminot bashing. Et moi, ce que je vois, c'est que le soutien à la mobilisation grandit. Et il grandit beaucoup plus que la cote de popularité de Macron.
Les députés de droite jouent, eux, les équilibristes. D'accord avec le gouvernement sur l'orientation générale de la réforme, il dénonce la méthode. Christian Jacob, patron des députés Les Républicains.
Le gouvernement, aujourd'hui, on lui demande de mettre un texte sur la table et d'arrêter de jouer avec les ordonnances en nous expliquant que le Parlement va avoir 3 jours pour travailler, mais au gré de 70 réunions prévues avec Sudrail et la CGT. On ne travaille pas sous la dictée de Sudrail et de la CGT.
Le gouvernement est sur la défensive et c'est son porte-parole Benjamin Griveaux qui monte au front pour dénoncer des caricatures.
Ce projet n'est pas un projet de privatisation. L'entreprise sera une société nationale à capitaux publics. Nous ne fermerons aucune petite ligne et le statut des cheminots pour ceux qui aujourd'hui sont sous statut ne sera pas modifié en quoi que ce soit.
Depuis hier, les députés discutent de l'ouverture à la concurrence, mais uniquement de cela. Le statut des cheminots et de la SNCF étant toujours en discussion entre gouvernement et syndicats.
Nous sommes à nouveau à la Maison des journalistes au cœur de Paris. Et là, j'ai envie, messieurs, de vous entendre parler un petit peu de votre vision de la France. Makaïla Nguébla, vous êtes gêné par cette grève de la
SNCF ? Je suis tout à fait gêné, Pierre, parce que je trouve que c'est des réformes impopulaires, étant donné que moi, j'habite en région parisienne. Et c'est depuis mardi que tout est paralysé, parce qu'effectivement, les gares sont bondées de monde. Et je pense que dès lors que ces réformes sont impopulaires, il faut que le gouvernement tienne compte, effectivement, des préoccupations des Français. Et il faut que le gouvernement entende aussi la SNCF, qui ne veut pas du tout de ces réformes qui ne sont pas populaires.
Hicham Mansouri, comment voyez-vous ce climat social, notamment, mais le climat tout général, en général en France aujourd'hui?
Pour quelqu'un qui arrive il y a 2 ans en France, moi je suis juste impressionné que c'est vivant. De voir des interactions, de voir des manifestations, de voir des médias, de voir tout le monde s'exprimer, c'est quelque chose qu'on voit pas chez nous par exemple, parce que les syndicats ils sont souvent alignés avec le gouvernement, avec les entreprises.
Au Maroc.
Sauf quand on leur donne le signal de le faire. Et donc pour moi c'est vivant, mais peut-être dans quelques années j'aurai un regard plus critique.
Mandion Sidibé.
Moi j'étais très surpris de constater qu'en France il y a trop de grèves. Même dans les médias, il faut le constater. En Afrique, c'est le constat que les gens font, que parce que on estime que ici c'est le symbole de la démocratie. Mais il y a un peu trop de grèves. Vous constatez aujourd'hui que tout est paralysé à Paris et presque en France pour vous déplacer aujourd'hui. Et c'est la croix et la bannière. Moi, je suis arrivé en retard pour l'enregistrement de cette émission. Vous le constatez déjà, c'est parce que...
Mais vous êtes paralysé. Là, c'est l'essentiel.
Oui, c'est l'essentiel. De toute façon, mais il faudrait vraiment qu'à un moment donné, que les partis s'entendent.
Darline Cotière, vous dirigez donc cette maison des journalistes. Ces journalistes réfugiés ici à la MDJ ont une vie quotidienne difficile. Hein. Ils doivent se battre souvent avec l'administration, souvent avec d'autres partenaires pour vivre, voire survivre.
Voilà, parce que... Donc, c'est vrai que nous, on les accompagne administrativement dans la plupart de leurs démarches. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas forcément toutes les clés parce qu'il y a l'administration française qui est en face. Donc déjà, pour qu'on leur reconnaisse le statut de réfugié politique, donc il faut tout un ensemble de démarches. Donc passer à la préfecture, aller à l'OFPRA, etc.
L'OFPRA qui est
l'Office français pour la protection des réfugiés apatrides, donc qui traite de la demande d'asile. Donc il y a toutes ces difficultés administratives et en face il n'y a pas forcément justement de considération humaine, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc les journalistes sont considérés comme des cas ou tout simplement comme des numéros et c'est à ce niveau-là que nous on essaye d'agir pour qu'ils puissent déjà avoir cette reconnaissance, agir pour qu'ils puissent se trouver un logement. Ça, c'est pas facile, surtout dans le contexte migratoire actuel où tous les dispositifs sont saturés. Donc, c'est un combat au quotidien pour l'équipe de la Maison des journalistes. Donc, on a un volet social. Tout ça, c'est pour dire aussi qu'on a un volet social dans notre action qui nous permet justement de faire ce travail d'accompagnement. Mais on essaie aussi de trouver des solutions alternatives, au coup par coup. Et puis c'est vrai que les parcours sont différents et il faut trouver des solutions appropriées à chaque situation.
Mais comment sélectionnez-vous ces journalistes? Parce que les places sont chères.
Les places sont limitées, donc on a beaucoup de demandes. Donc on a toujours une liste d'attente assez fournie. Les journalistes, ils doivent bien entendu démontrer ou du moins prouver leur situation professionnelle. Voilà, donc ce sont de vrais journalistes qui ont travaillé dans leur pays à ce titre et justifier aussi des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu continuer à exercer leur métier. Et puis il y a des critères sociaux également, le degré de précarité suivant que la personne se retrouve à la rue ou pas. Donc voilà, c'est sur ces critères-là, entre guillemets, que les journalistes sont admis à la MDJ.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, écrivez-nous aussi à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Je salue aujourd'hui Hippolyte qui nous écoute à Passagon, au centre du Bénin. Et si Erdogan intervenait militairement en Irak, se demande-t-il. Bonjour à Oumar, à Conakry, à Malal, à Nouakchott. Je salue Ali à N'Djamena, Zougouri à Ouagadougou, Kaïta à Kaï, au Mali, Ousmane qui nous suit à Sédiou, au sud du Sénégal, et Nestor, lui aussi fidèle auditeur, lui à Maroua, dans le nord du Cameroun. Suite de cette édition spéciale d'une semaine d'actualité à la Maison des journalistes à Paris, et nous allons évoquer maintenant deux événements en Afrique parmi beaucoup d'autres dont on vous parle dans nos journaux. D'abord la disparition de Winnie Mandela, l'ex-femme de Nelson Mandela. Je vous propose d'écouter le reportage de Noé Ocher-Baudin à Soweto sur les traces de cette combattante contre l'apartheid.
Dans la célèbre rue Villa Kadzi de Soweto, le restaurant familial des Mandela est exceptionnellement fermé. Sonohan Molefe, 68 ans, se trouve devant, seul, avec sa guitare.
C'est notre mère à tous. Elle a toujours combattu le régime de l'apartheid. Ce dont je vais me souvenir, c'est qu'elle est une leader, une vraie leader.
Un peu plus bas, Thabo, 21 ans, et ses amis se sont regroupés à quelques rues à peine de la maison de Winnie Mandela, en sa mémoire.
Oui, aujourd'hui, nous avons perdu, je ne sais même pas quel mot employer, nous avons perdu une reine, la reine de notre nation.
L'Afrique du Sud a perdu une reine, donc, perdu aussi un idéal féminin, selon Tokas, très émue, car elle vient d'apprendre la triste nouvelle.
Oui, je suis très fière d'elle.
Pas question de parler de ces scandales, les Sud-Africains et Sud-Africaines veulent retenir la combattante pour la liberté, celle qu'ils surnomment la mère de la nation.
Suite d'une semaine d'actualité, nous repartons en Afrique, mendiant Sidi Bé, là ça va être un sujet qui va vous intéresser particulièrement, avec la rencontre lundi à Conakry, discussion entre le président Alpha Condé et le chef de l'opposition, c'est Loud Alain Diallo, à Conakry ce jour-là, Mokhtarba.
C'est un début d'accalmie ou la paix des braves, pourrait-on dire. Alpha Condé et Sélou Dalein Diallo se sont retrouvés au palais présidentiel pour trouver la solution aux nombreuses divergences qui les opposent depuis un an et demi. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était en septembre 2016. Au sortir de cette rencontre et pour ramener la paix dans la cité, des propositions ont été formulées. Kirili Bangoura est le porte-parole du palais présidentiel.
De privilégier le dialogue et la concertation, de demander au comité de suivi de l'accord politique de trouver une solution aux différents électoraux, de tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels, qui qu'ils soient.
En réponse, la question a été posée à Sélou Dalein Diallo, chef de l'opposition. Êtes-vous satisfait de cette rencontre?
Oui, dans la mesure où on a eu une discussion longue et franche, j'ai pu librement exprimer mes préoccupations et défendre les revendications de l'opposition dans son ensemble. Et je pense que j'ai été entendu.
En conséquence, Sélou Dalein Diallo annonce.
Pour l'instant, nous suspendons les manifestations jusqu'à ce qu'on voit quelle est la suite que le comité de suivi va réserver à la demande de Monsieur le Président de la République.
Maintenant, tous les regards sont tournés vers le comité de suivi des accords politiques et le ministre Bourema Condé qui en est le président.
Mendiant Sidi Bé, que pensez-vous de cette rencontre qui semble avoir débloqué un peu la situation alors qu'il y a des manifestations de femmes, notamment depuis des mois en Guinée? Vous connaissez d'ailleurs Mokhtarba?
Très bien, mon cher ami. Ben, je souhaiterais que vous portiez des gants en utilisant le vocable débloqué. Pour moi, la situation, pour qu'elle soit débloquée, je ne pense pas que cette rencontre puisse débloquer la situation. D'autant plus que c'est la énième fois que les deux personnalités se rencontrent. Et c'est parfois, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Mais nous espérons bien que cette rencontre soit la bonne. Mais moi, je n'ai aucun espoir, et ben, parce que je connais l'homme, je connais M. Alpha Condé, qui n'a jamais respecté ses engagements. Et M. Sélou Dalein peut dire aujourd'hui qu'il a fait preuve de volonté pour aller à l'apaisement. pour satisfaire la volonté de la communauté internationale qui voudrait que le climat s'apaise, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis 3 mois déjà, il y a trop de crises sociales en Guinée, à commencer par la grève des enseignants, et aujourd'hui, la crise post-électorale avait pris une ampleur indescriptible. Alors, nous estimons, puisque la politique de M. Alpha Condé, c'est de faire en sorte que, à un moment donné, quand la crise s'accentue, on fait venir le chef de file de l'opposition à la présidente faire des photos, faire des déclarations, alors que, au fond, rien ne se fait après. Et pour la communauté internationale, ces images qui font le tour du monde donnent l'espoir, alors que M. Alpha Condé n'est pas encore prêt à respecter les règles du jeu en matière de démocratie en Guinée.
Makaïla Nguembla, Hicham Mansouri, d'évidence, il est difficile de parler politique quand on est journaliste en Afrique.
Oui, parler politique en Afrique, c'est un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, très sensible pour surtout les acteurs politiques africains qui sont très très rigides lorsque vous critiquez leur gestion, lorsque vous critiquez effectivement, vous abordez des sujets comme sur la bonne gouvernance, l'état des droits, les respect des libertés fondamentales. Les gens sont trop fêlés et je ne sais pas où et quand on pourrait effectivement instaurer en Afrique un état de droit et une démocratie effective.
Alors vous êtes journaliste et blogueur tchadien. Est-ce que le fait d'avoir un blog, de passer par les réseaux numériques permet aussi de s'exprimer peut-être différemment
Tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, les nouvelles technologies nous ont donné l'opportunité unique, effectivement, de donner de l'information virtuelle, ce qui est important. Alors si le journaliste ne peut pas exercer véritablement son activité, son exercice de son métier à partir de son pays, il peut le faire. Moi, je continue à animer mon blog à partir de la France. Ça veut dire qu'effectivement, on a réussi à démocratiser l'information, à aider effectivement à informer l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui se passe
au
Tchad.
Les frontières sont abolies.
Tout à fait, abolies. Donc je pense qu'il faut encourager cette forme d'information qui est aujourd'hui d'actualité.
Hicham Mansouri, c'est aussi votre avis ?
Oui, je partage. C'est des dirigeants qui entretiennent le culte du chef, qui acceptent pas, par exemple, qu'il soit caricaturisé, alors qu'il reste au pouvoir longtemps, parfois des élections truquées. Quand on voit un président comme Abdelaziz Bouteflika qui dirige son peuple sur une chaise roulante, on sait même pas qu'il est vivant ou pas. Le roi du Maroc qui passe la majorité de son temps à l'étranger, qu'au Maroc, on peut pas aussi en parler. Le Sahara occidental, parfois c'est la religion. Donc, plein de lignes rouges, mais la grande ligne rouge, c'est le chef lui-même qui n'accepte pas la critique. Ça, c'est dangereux.
Darline Cotière, je remarque que une grande partie des journalistes que vous accueillez à la maison des journalistes sont d'origine africaine.
Oui, c'est vrai. Dans l'ensemble, depuis 2002, on a un nombre assez important de journalistes africains.
J'ai quelques chiffres, par exemple, 47 en provenance d'Afrique centrale, 46 en provenance d'Afrique de l'Ouest. C'est à comparer avec les journalistes qui viennent d'Asie centrale et de l'Ouest, 41 jusqu'ici, ou du Moyen-Orient, évidemment, 141.
Oui, mais il faut savoir qu'il y a aussi des vagues d'arrivées en fonction de la situation de la presse, des atteintes à la liberté de la presse dans ces pays, et en fonction de la situation des conflits dans le monde. Donc c'est une évidence, par exemple, depuis 2011, pour la Syrie, on a accueilli beaucoup de Syriens depuis le début de la crise, mais pour les pays africains, après la crise au Burundi, donc on a accueilli pas mal de journalistes burundaises, et là, la particularité, c'est que ce sont que des femmes. On a accueilli des journalistes centrafricains aussi, donc après la crise, donc ça veut dire qu'à ce titre, notre maison a une sorte, enfin reflète la situation de la presse dans le monde et des conflits. C'est une sorte de baromètre de la situation de la presse. Donc c'est vrai qu'on a accueilli beaucoup de journalistes africains depuis la création de cette maison.
Alors il faut préciser aussi que vous avez un journal en ligne que nos auditeurs, ceux qui nous écoutent en ce moment même, peuvent consulter sur Internet.
Tout à fait. Donc c'est l'œil de la maison des journalistes. Donc ce journal est tenu principalement par des journalistes exilés. Donc c'est important pour nous qu'ils continuent justement de publier leurs articles, sinon ça serait une autre forme de répression que d'être en France exilé et de ne pas pouvoir continuer son métier, parce que intégrer un média en France, donc ça reste aussi très très compliqué. Donc on leur donne cette vitrine là, donc cette opportunité pour pouvoir rester dans le métier. Et pour la France, mais pas uniquement, c'est une richesse parce que ils posent leur regard. Donc déjà, ils sont journalistes, mais ils ont aussi tout ce background culturel, etc. Donc ils arrivent avec leur propre expérience et la connaissance de leur pays, des régions d'où ils sont originaires. Et on le voit d'ailleurs quand ils interviennent, par exemple, au niveau de rédaction internationale pour commenter l'actualité de leur pays. On voit ce plus qu'ils apportent, cette plus-value entre guillemets. Et voilà, c'est une richesse quand même pour la presse pas uniquement francophone.
Pendant que je vous écoutais, Darline, je regardais aussi une affiche qui est derrière vous, un petit peu à côté eux, qui dit « La liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, mais un droit des citoyens à méditer ». Mendiant Sidibé, est-ce que vous arrivez à travailler, à continuer à travailler sur l'actualité guinéenne aujourd'hui ?
Oui, je continue à travailler sur l'actualité guinéenne, mais à travers des médias guinéens, notamment Médias d'Afrique, qui est une radio en ligne basée aux États-Unis, mais également le site guinématin.com, qui est aujourd'hui l'un des sites les plus visités en Guinée, l'un des trois meilleurs sites de la République de Guinée. Alors je continue, et puis aussi, comme Madame la directrice de la Maison des journalistes vient de le souligner, nous avons ici des créneaux aussi qui nous sont offerts par la Maison des journalistes. C'est le moment vraiment de tirer le chapeau pour cette Maison des journalistes qui nous accueillent et qui nous aident aussi à ne pas croiser les bras, à ne pas céder à la répression et à ne pas perdre la main.
Même chose, même question à Makayla Nguemla. Je rappelle que vous êtes journaliste et blogueur tchadien. Vous arrivez à suivre toujours l'actualité tchadienne et à travailler sur le Tchad ?
Tout à fait. Moi, je travaille sur le Tchad parce que mon blog, c'est un blog de référence. Aujourd'hui, il est très, très, très apprécié des Tchadiens, apprécié également de la presse internationale. Donc, je continue à bloguer à partir de chez moi. Et puis, je continue aussi à alimenter le site de la Maison des journalistes par des contributions personnelles, par des analyses sur les questions internationales, sur les questions aussi en France. J'ai couvert des conférences de presse organisées à Paris. Et c'est pour vous dire qu'effectivement, le journaliste, il peut être en exil, mais il peut continuer à être très attaché à son métier, attaché également à sa conviction d'être journaliste, engagé, militant, etc. C'est ça, en fait, la particularité. Ce qui nous donne l'espoir, c'est aussi l'accompagnement de la Maison de journalistes. La Maison de journalistes, aujourd'hui, comme l'a dit Daline dans l'entame de cette émission, c'est que c'est une maison inédite, première dans le monde. Il n'y en avait aucune. Et donc, je pense que la France doit être fière d'avoir une seule maison. Moi, j'étais parti en Espagne, j'en avais parlé longuement de la Maison de journalistes, et ça a vraiment ému les Espagnols qu'une Maison de journalistes, et au Canada, pareil. Donc, je pense qu'il faut que les autorités françaises aussi soient aussi très attentives à ce que nous faisons à la Maison de journalistes pour nous accompagner dans nos missions.
Hicham Mansouri, vous continuez, même question, à travailler sur le Maroc. Les Marocains peuvent continuer à vous lire, par exemple ?
Oui, je continue, et c'est d'abord vraiment grâce à la Maison des journalistes. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'assimilation avec une usine. Moi, je pense qu'il y a un rapport.
L'usine de Brossard, lui, c'est quand même formidable, non ?
Oui, voilà, bon, on n'est pas fabriqué ici, mais on est quand même reconstitué. Il y a un travail quand même de reconstitution psychique, sociale, mais aussi professionnelle, parce que participer à une multitude de conférences, ça vous donne un carnet d'adresses quand même qui est important. Et puis, voilà, on est invité dans des médias. Et pour moi, je continue à suivre, à commenter l'actualité politique de mon pays avec un autre regard, je pense, plus objectif, même si on n'est pas sur le terrain.
Alors, je ne le fais jamais dans cette émission, il y a quelques dédicaces à chaque fois, mais je vous autorise à chacun à saluer un auditeur ou une auditrice, quelqu'un que vous connaissez dans vos pays respectifs.
Mais je pense,
Makayla, au Tchad.
Au Tchad, je salue mes sœurs, salue ma femme aussi, hein, qui se trouve aujourd'hui en France. Je salue tous ceux qui me sont chers et tous les Tchadiens qui suivent effectivement cette émission, et les filles surtout.
Hicham ?
En plus de ma famille, mes parents, j'aimerais faire un salut de soutien à mon ami historien Mahdi Mounjib, qui est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et qui mène à un combat très courageux au Maroc.
Mendiant Sidibé.
Voilà, moi je voudrais dire merci, un grand merci donc à mon confrère Nuhum Baldé qui m'accompagne dans cette aventure depuis 2013. Et sincèrement, je bénéficie de son soutien inconditionnel depuis 2013 jusqu'à ce jour. Ça me marque et ça me va tout droit au cœur.
Allez, Darline aussi,
je vais pas, oui, donc je ne vais pas rater cette occasion pour saluer quelques amis qui sont dans l'espace francophone. Je pense à Dandy Niamou, qui est au Bénin, Marie-France Joachin et Nicole Siméon, qui sont en Haïti. Donc une façon de dire que la francophonie est importante aussi.
En tout cas, merci de nous avoir reçus dans cette maison unique au monde qui permet à certains de nos confrères de continuer à faire leur métier et à vivre, tout simplement, parce qu'on en est là souvent. Merci.
Merci à vous.
Merci à vous, Pierre. Merci à toute l'équipe aussi technique des RFI.
Très importante.
Merci à vous. Merci à toute l'équipe des RFI.
C'est la fin de cette édition spéciale d'une semaine d'actualité donc que nous avons proposée à la Maison des journalistes à Paris. Maison qui a d'ailleurs un site, je crois, maisondesjournalistes.org. Un grand merci à toute l'équipe et en particulier à Lisa Viola Rossi. Réalisation Vanessa Rovensky, bien sûr. Prise de son Médard Chablaoui. Je vous retrouve demain, dimanche, pour le magazine Idée. Nous y recevrons Amédou Ould Abdallah, qui fut ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, puis représentant du secrétaire général de l'ONU. Il vient d'écrire ses mémoires demain dimanche, donc 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, nouveau journal sur RFI, bien sûr.
Thank you.